know you're a feminist.
It was not a compliment.
Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté.
They wanted to silence one Malala, but instead, now thousands and hundreds and millions of Malalas are speaking and they're fighting for their rights.
Il n'y a rien de pire que le viol.
On se lève et on se casse.
Bienvenue sur Charbons Ardents, votre rendez-vous du midi, tous les deuxièmes jeudis du mois. Pendant une heure, Chat et Mareuil vous parlent tous les mois des sujets qui fâchent. En partant d'un témoignage sur les violences quotidiennes, on décryptera ensemble un exemple médiatique avec à la clé des outils pour comprendre le militantisme d'aujourd'hui. Charbons Ardents, c'est sur Prune, 92 FM, et c'est maintenant.
Dans Incendie et brûlure, la parole à celles qui ne l'ont pas. Attention, le témoignage qui suit comporte des triggers et peut appuyer sur des traumatismes liés à la violence masculine.
Je m'appelle Olga, j'ai 38 ans. Je suis restée en couple 6 ans avec un homme violent, dangereux. J'ai été battue, humiliée, harcelée, violée, mais pas tuée. J'ai déposé plainte pour violence habituelle sur conjoint et viol conjugal en mai 2019. À ce jour, mon agresseur n'a jamais été inquiété pour les violences que j'ai subies. Aucune convocation au commissariat, aucune injonction d'éloignement, rien. C'est comme si la justice m'avait oublié.
Quand tu tombes sur un type comme ça, tu découvres le changement de visage, comme s'il enlevait un filtre et se montrait tel qu'il est, mais juste à toi. C'est frappant. Il change de visage, tu le vois, ce n'est plus ton amoureux qui te regarde, c'est le mal. En vrai de vrai, en face de toi. Et comme personne autour ne le voit, tu penses que tu te trompes. Et voilà, t'es morte. Parce que le secret est né, et c'est toi qui en es responsable. Et quand on voit le mal, on a deux solutions.
On peut le nommer, l'exposer, lui dire clairement que tu l'as reconnu, puis fuir. Couper les ponts immédiatement. Prévenir le monde qu'il se cache dans cette personne-là. Cette option demande de la connaissance et de la force. On ne naît pas armé pour ça.
Alors reste l'option 2. On baisse la tête de peur. On se retrouve en état de sidération. Il nous pose le bagage sur le dos. La suite, ça dépend du poids qu'on peut porter. Et ça, crois-moi, la plupart des nanas encaissent grave. La suite dépendra de ce qu'on est en état de faire quand ça devient trop lourd.
Pourtant, je suis une meneuse. Caractère affirmé, humour, répartie. Donc pas vraiment le stéréotype de la meuf introvertie qui fait bobonne et qui prend des baffes. Ça, pour te dire, ça tombe sur n'importe qui.
Les pains dans la tronche, les bleus sur la tempe et la lèvre fendue, pareil. Tu oublies. Attention, hein, ça existe, c'est le cas de plein de victimes. Il y a toute une gamme de violences physiques qui se voient moins. Moi, par exemple, j'ai jamais eu un gros bleu sur la joue. Sur les jambes, les bras, le ventre et le dos, oui, j'en ai eu. Sur le visage, de tout petit, qu'on masque facilement, des griffures, des cheveux arrachés.
Je dis ça pour stopper direct le concours de violence. Beaucoup de victimes et de proches de victimes minimisent ce qui est arrivé sous prétexte qu'il n'y a pas eu de mâchoire cassée, d'hospitalisation, de sang partout. En fait, c'est pareil. La honte, la peur, se préparer à mourir et tout le tralala, c'est ça la vraie blessure qui ne nous quittera jamais vraiment. On est changé, je suis changé, pour toujours.
Mais justement, c'est bien ça le pire. Savoir que la vie continue, mais à côté de soi. On n'existe plus dans la même réalité que le reste du monde. C'est un peu comme être extra-lucide, juste pour les horreurs et la violence. Quand notre cerveau a dû faire certaines cabrioles, il n'est plus le même qu'avant.
Ce soir-là, alors qu'il me tenait penché par le balcon du 5e étage, les deux mains dans ma bouche, essayant de l'ouvrir au maximum dans le but de... Je ne sais pas. Je crois que j'ai voulu allumer une cigarette au mauvais moment de la conversation.
En tout cas, je sais que je suis très concentrée, car je ne sais pas anticiper par où ça va craquer en premier. Je n'ai aucune idée de ce qui lâche le plus vite dans la mâchoire. Je dois donc beaucoup réfléchir à exercer une pression homogène, afin de couvrir toutes les articulations et tous les ligaments, mais... Et c'est le plus important, ne pas serrer trop fort, ne pas lui blesser les doigts.
Puis aussi, il faut se tenir pour ne pas basculer dans le vide parce que... Il ne se le pardonnerait jamais. Je ne peux pas lui faire ça. En fait, quand on doit anticiper tout ça en restant calme et que jamais on ne peut prévoir quand et comment il faudra refaire des cabrioles, on reste prête. Surtout pas prête à parer le coup, parce que ce serait de la provocation. Juste prête à contracter le bon muscle au bon moment pour avoir le moins de douleurs et de traces possibles. On apprend aussi. Ce soir-là, par exemple, j'ai appris que ce sont les cervicales qui lâchent en premier.
Quand on a vécu ce silence-là, celui de se concentrer pour ne pas mourir tout en préservant l'agresseur, c'est gravé. J'ai très vite commencé à avoir peur de tout, à sursauter au moindre bruit, à dormir à moitié, à faire en sorte qu'il ne soit pas derrière moi, discrètement, tout, Absolument tout devient un danger de mort. Mes proches, qui petit à petit se sont éloignés de manière très logique, me voyaient en stress permanent pour tout, et ça les gonflait. Certains s'en sont inquiétés, mais je gardais le secret, coûte que coûte. Et si quelqu'un fouinait trop, je l'éloignais.
Je voulais que tout aille bien. Si je m'améliorais et si je faisais plus n'importe quoi, il n'aurait plus besoin de me corriger. Ouais, c'est tordu. Et c'est de sa faute. Pas la mienne. Pas la nôtre. Ce sont eux les malades cruels. Nous sommes les victimes et nous sommes des milliards. Oui, oui, littéralement. À porter un bagage invisible qui, un jour ou l'autre, nous fera mettre genoux à terre.
Tu t'es reconnue, c'est ça ? Ouais, je sais. Je sais. C'est moins douloureux comme ça. Mais avec celles qui ont jeté le bagage invisible et qui se sont relevées, tu n'as pas à faire semblant, ma chérie. Je sais, je te vois, je te tiens la main. Toi qui écoutes et qui reconnais, je te tiens la main.
We gotta burn this patriarchy down!
Dans Toute Feu, Toute Flamme, Marie et Chat mangent des livres et les digèrent. C'est bon pour la santé et puis nous on fait tourner pour vous donner de la force, des munitions et des idées du percutant intellectuel de la mort qui tue.
Retrouvez toutes les références abordées en description du podcast sur vos plateformes habituelles ainsi que sur notre Insta. Allez, viens donner du clic!
Charbons ardents!
Ah que coucou, Mareuil!
Yellow, mon petit chat!
En ce deuxième jeudi d'un mois qui s'annonce celui du renouveau des soirées en terrasse et du totalitarisme fasciste, on vous propose de parler d'un sujet assez vaste, déjà effleuré maintes et maintes fois depuis le début de l'année sous ses multiples formes, la silenciation des femmes. L'occasion d'une petite synthèse de tous les thèmes abordés cette année avant notre dernière émission de la saison.
Attention à l'interrogation surprise. La silenciation, was ist das ? On désigne par ce terme un processus par lequel on va travailler à invisibiliser quelqu'un, quelqu'une, ou à le labellionner, c'est-à-dire en fait à lui retirer tous les outils, l'espace nécessaire à former et faire entendre sa voix propre dans l'espace public. Donc l'espace public, c'est celui de la politique, de l'art, du marketing, de l'économie, etc. etc. Ça fait beaucoup.
Silence, je ne parle pas. Écoute ce que j'ai à dire quand je parle de toi. Je veux que tu me devines, que tu meurs de moi. Viens dans ma tête, ne dis plus un mot. Je serai ton paradis si l'enfer est là. Vous les femmes c'est toujours pareil. Quand le drame s'abat vous pleurez. Vous les hommes c'est toujours pareil. Quand le drame s'abat vous courez. C'est pour ça que les relations s'arrêtent. J'ai tort, c'est ma faute. Sentiments égarés, on sourit pour ne pas pleurer. On s'oublie pour ne plus s'aimer. Cherche la perfection pour fuir la réalité. Le vrai problème c'est qu'à chaque fois c'est le même problème. Chatouille de bijoux empardonnés. En train de bisous empoisonnés. Précède un je t'aime qui n'a pas oublié. Que t'as aimé un autre.
Nombreuses sont les catégories silenciées dans notre société si inclusive. Nombreux sont les gens dont on n'entend pas la voix. Alors quand on dit qu'on n'entend pas leur voix, l'idée c'est pas de faire un karaoké, même si vous connaissez déjà mon amour pour cette activité.
Oui.
Je sens le jugement dans ta voix.
Mais pas du tout, c'est juste que tu en parles à peu près 50 fois.
Eh bien je vais chanter maintenant. Non, c'est pas vrai. En gros, si tu te lances pas en politique, si t'aimes pas parler en public, tu vas choisir des gens aptes à représenter tes intérêts, soit parce qu'elles te ressemblent et vivent la même chose que toi, soit parce qu'elles sont inclusives et inclusives et font preuve de suffisamment d'empathie pour te servir de porte-parole.
Indeed, c'est pas gagné de trouver des gens comme ça. Alors évidemment, le vote reste LE moyen,
ultra biaisé et inefficace,
le moyen pour la plupart d'entre nous de donner sa voix. Donc vote pour ton délégué, vote pour ton chanteur de The Voice préféré, vote pour qui va gouverner pendant 5 ans et t'imposer sa manière de penser joie. On nous donne à penser qu'on a tout le temps notre mot à dire grâce aux petites étoiles sur les avis Google, grâce à un tout petit bout de papier dans un isoloir, pas si souvent que ça d'ailleurs, et grâce surtout au SMS surtaxé envoie bébé au 3612.
Tu parles trop, j'entends du soir au matin. Les mêmes mots, tu jures les mêmes refrains. Tu fais bla bla bla, c'est ton défaut. Tu parles à tort des gens que tu ne connais pas. Tu dis bien fort ce que l'on pense tout bas. Tu fais bla bla bla, c'est ton défaut. Tu parles à tort si la parole est d'argent. J'aurai bientôt fait fortune en t'écoutant. Tu fais bla bla bla, c'est ton défaut.
Parmi les catégories silenciées, qui ne parviennent pas aux études, postes et domaines dans lesquels on vocifère et hurle les ordres et discours qui vont conditionner nos lois, nos dépenses perso et publiques, nos modes de pensée, il y a un paquet de monde dont on n'entend pas la voix, ou alors en arrière-plan, en sourdine, en bruit de fond. Parmi elles, sans surprise, les racisés, les catégories populaires et précarisées, les personnes non valides, les LGBTQIA+, et bien sûr notre sujet du jour, les femmes.
Encore elles ?
Ah bah oui, Mareuil, enfin, c'est une émission féministe ici, je croyais que tu savais.
Mieux vaut tard que jamais. Alors comment, pourquoi, où, par qui et depuis quand sont-elles silencieuses ? Grimpons ensemble à bord du TARDIS pour un nouveau voyage dans le temps à vous filer la nausée.
Ferme ta gueule, ferme ta gueule, 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 ferme ta gueule, ferme ta gueule, 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 ferme ta gueule.
Culturellement, le conditionnement des femmes à la fermer, ça remonte et c'est quasi universel. Ce qui est bien avec la misogynie, c'est que globalement, ça met presque tout le monde d'accord. Alors, petit florilège d'expressions sur le silence des femmes, c'est parti mon kiki.
À l'Antiquité, Sophocle nous propose dans sa tragédie Ajax, la parure des femmes, femmes, c'est le silence.
Soyons à poil alors.
Ouais, tous nus et tous bronzés. Elle a là un rayon de soleil et direct nous on ne tient plus hein.
L'Afrique subsaharienne s'inspire de ce dramaturge antique et de l'idée de parure avec, je cite, « Le silence est la seule chose en or que les femmes ne portent pas. Double clash, hey yo yo, les femmes sont et des michetots, bavardes et couvertes d'or. »
Ah bah ouais, tiens, maintenant que tu le dis. En France, on est un chouïa plus cash avec l'incontournable, le classique, l'inégalé, « Sois belle et tais-toi ».
Enfin, l'Iran nous propose, ouvrez les guillemets, « La femme sage est celle qui a beaucoup à dire, mais garde le silence. » Voilà. Quand t'as des trucs à dire, faut quand même fermer ton claque-merde, tu montreras ainsi beaucoup mieux ton brio.
Ferme ta boîte à camembert.
Tu l'ouvriras pour le dessert.
Parce que le conditionnement, on ne le dira jamais assez, ne passe pas que par le langage mais aussi par les histoires, un petit mythe du jour sur le silence des femmes.
Once upon a time, au temps du pré-nucléaire, quand Naïade, Nymphe et Dryade se baladaient à poil dans les bois.
On en vient toujours là, hein ?
Toujours, c'est le fil accidentel et nudiste du jour. Donc ouais, petite balade dans l'Antiquité, prévois ton pepper spray parce que qui va encore sortir une fois, jaillir d'un buisson et profiter de sa posture de suprématie politique pour accomplir du même coup un énième viol et un énième adultère ?
J'hésite, voyons voir. Est-ce que ça commence par G, ça finit par Rald ?
Mauvaise époque, chat. Il s'agit sans surprise de Monsieur Zeus, le dieu à la teub bien pendue.
Ah mais oui ! Et cette fois, Jean VI Zeus oblige une nymphe à l'aider à masquer ses exactions. Elle s'appelle Echo et elle va bientôt être sévèrement punie par Héra, femme multibafouée, à la place du dieu de l'éjac foudroyante, puisque c'est toujours la faute des meufs, jamais celle des mecs.
En effet, chat. Parce qu'elle a menti pour couvrir son boss, Echo est condamnée par Héra à perdre sa voix et à ne plus pouvoir répéter que la fin des phrases de ceux qu'elle croise. En voici en direct une description par Ovide, « In Latin we trust ». Jusqu'alors, Echo était un corps, non une simple voix. Et pourtant, cette bavarde ne se servait pas autrement de sa bouche que maintenant. Elle ne pouvait que répéter les tout derniers mots d'une longue phrase, c'était là l'œuvre d'Héra. En effet, comme souvent dans la montagne, Héra risquait de surprendre des nymphes couchées avec Zeus, de leur plein gré, on n'en doute pas. Echo, avec sagacité, retenait la déesse par de longues discussions pour permettre aux nymphes de fuir. La déesse s'en aperçut et dit « Sur ta langue qui m'a abusée, tu auras seulement un pouvoir réduit et un usage très limité de ta voix. » Elle exécute ses menaces, toutefois la nymphe répète les sons, qui termine une phrase et reproduit les mots qu'elle a entendus.
Mareuil, est-ce que c'est vrai qu'à la fin, la meuf disparaît totalement quand le BG égocentrique et timbré Narcisse ne veut plus d'elle ?
Bah ouais, parce que sans un mec, que serions-nous, chat ?
Ah bah oui, rien, c'est vrai. Hein. On retrouvera ce fil rouge de la perte de voix dans bien des folklores et contes. Une des réécritures du mythe d'Echo, la plus célèbre, reste la petite sirène, la vraie version, hein, attention. Qui va jusqu'à accepter de se sacrifier à la fin quand le prince tombe amoureux d'une autre et elle s'en réjouit pour lui.
Du moment qu'il est heureux, je peux bien disparaître.
Quand je rentre du taf, ma femme me raconte sa journée. Elle me parle de ses copines et franchement, je m'en passerai. Elle me dit que Christine a bu du lait qui a tourné. Mais dites-moi si ça intéresserait. Et elle me saoule avec ses commérages de bureau. Oui, elle me saoule avec ses collègues et leurs mythos. Et elle me saoule avec aujourd'hui t'as fait quoi de beau. Mais moi j'ai juste envie de lui dire
tu veux pas fermer ta gueule le temps d'une soirée. Juste m'oublier, me laisser respirer. Si tu veux pas fermer ta gueule le temps d'une soirée, sans me saouler, ma tête va exploser.
Grosso modo, on passe donc des siècles à utiliser des proverbes disant aux meufs qu'elles sont plus intelligentes si elles ne disent rien, ou à leur raconter des histoires de femmes qui sont punies pour avoir trop parlé. On les fait passer régulièrement pour des pipelettes.
Rappel des bases, terme sans équivalent masculin, c'est donc un terme miso.
Tout à fait. Donc pipelette, comparaison à une pie, une poule, un oiseau quoi.
On les empêche d'accéder aux postes politiques, de voter, d'exercer des métiers tout court, puis des métiers qui fourniraient des modèles aux enfants, leur permettant de penser que la voix féminine est valable. Pire, on leur fait croire qu'elles parlent trop et que ce n'est pas bien. Mais à côté, on leur dit « qui ne dit mot consent », c'est-à-dire que leur parole ne vaut rien.
Que leur parole ne vaut rien et que leur silence équivaut à un consentement par défaut. Donc en plus, tais-toi, 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 et quand tu te tais, je te viole. De cette voix féminine, on dit qu'elle est trop aiguë, agaçante, stridente, bah ouais. Anecdote personnelle pour avoir croisé ma bonne collection de beaufs, j'imagine, comme toi, chat.
Je préfère rester silencieuse, là.
No comment. Donc, de beauf en soirée, j'en ai déjà croisé un qui sévit dans cette ville, qui a giflé une fille sous parce que, je cite, « ta voix me tape sur les nerfs ».
Normal. On vous balance en 06 à la fin de l'émission.
Jusqu'au XVIIIe siècle, à cause de cette voix absolument infâme, des femmes, on préfère couper les couilles des gamins avant qu'ils ne muent pour pouvoir en faire des castrats et leur permettre d'interpréter des rôles féminins à l'opéra plutôt que d'utiliser une femme.
Que ce soit la voix symbolique, c'est-à-dire la voix politique, sociale ou économique, ou alors la voix réelle, stigmatisée comme laide, celle des femmes ne compte pas, elle est mise au rebut et doit être bâillonnée. On nous apprend très tôt à la fermer en fait. On a parlé la dernière fois de l'absence des femmes en politique, qui a le double effet qui se coule d'empêcher la représentation de nos intérêts au niveau de l'État, et de nous conditionner à penser très jeune que si pas de présidente ni de première ministre, ni de ministre de la guerre et des finances, alors, pas de femmes compétentes pour gérer un pays.
Pas de voix, pas de chocolat. On a parlé dans l'émission de mars de l'absence des femmes au niveau médical et dans celle de février des mécanismes de disparition de l'agentivité des femmes à l'intérieur du couple. Bon, ça fait déjà quand même un paquet de trucs qui contribuent au mutisme féminin, aux difficultés à trouver les mots pour dire ce qui ne va pas pour nous dans cette société, comme par exemple au hasard, féminicide, abus, viol. Bon, outre le fait de ne pas trouver les mots, c'est aussi qu'on n'arrive même pas à penser que quelqu'un ait envie de les écouter, qu'il s'agisse de la police et de la justice, ou bien du corps soignant, des collègues de bureau, des élus, de tonton Marcel.
De fait, on note la disparition dans le langage de catégories pourtant essentielles pour parvenir à se penser comme groupe important, influent dans la société. Le dictionnaire, on l'avait dit, a pris la peine de faire disparaître le terme de clitoris, nous privant par là, entre 1930 et 1998, d'un mot pour parler de nous, pour nous comprendre. Le langage, c'est fondamental pour se penser, pour découvrir aussi des catégories de pensée et pour se dire.
Ferme ta gueule, je veux la paix maintenant. Si tu ouvres la bouche, fais-moi une fellation. Je perds patience, tu me pousses à bout. Moi je m'en fous de l'amour, ça sert à rien d'attendre. Ferme ta gueule, je veux la paix maintenant. Si tu ouvres la bouche, fais-moi une fellation. Je perds patience, tu me pousses à bout. Ça rend fou l'amour, ça sert à rien d'attendre.
Il a fallu attendre 2021 pour faire reconnaître l'idée de féminicide, quand les journaux préfèrent encore aujourd'hui parler de drame passionnel, hein, c'est quand même plus vendeur. Avec des termes pareils, on déforme la réalité de ce que vit une femme quand elle y survit, en tout cas. De même, le terme viol regroupe une telle multitude de degrés de formes d'agression sexuelle que ça en devient un raccourci. C'est un peu comme quand on découvre qu'en plus du bleu, on peut aussi parler de cyan, d'indigo, de turquoise et d'azur. D'un seul coup, le cerveau commence à percevoir plus de nuances, à voir le monde de manière plus complexe.
Bon, tant qu'on évite le bleu marine, moi ça me va. On nous refuse donc des mots pour nous dire. Dans le domaine de l'agentivité, c'est-à-dire donc le champ d'action dans l'espace public, le langage a aussi vu disparaître la féminisation des noms de métiers. Celle qui en parle le mieux, c'est la linguiste Eliane Viennot, qui note que dès le milieu du XVIIe siècle, on assiste aux premières condamnations d'usage de mots correspondant à des activités portant sur la parole publique, la création ou le savoir, étant donné que certains hommes considèrent ces activités comme étant leur monopole exclusif. Le sujet du retour de ces termes revient à plusieurs reprises dans l'histoire, notamment en 1984 avec la création d'une commission, je cite, « chargée d'étudier la féminisation des titres et des fonctions et d'une manière générale, le vocabulaire concernant les activités des femmes ». Fin de citation.
Donc ouais, aucun succès de cette commission à rallonge, puisqu'il faudra attendre 2019 pour que l'Académie française réhabilite une forme féminine de nom de métier qu'elle avait elle-même supprimée, sans toutefois proposer de liste, parce que, oh là là, trop compliqué. Donc belle manière de nous faire comprendre que ces métiers ne sont pas faits pour nous. Alors s'il y a certains mots qui nous manquent, il y en a d'autres qui sont clairement en trop. Vous pouvez faire l'exercice chez vous de lister toutes les insultes que vous connaissez. Faites-le avec des gens de votre entourage, vous en trouverez plus. Vous constaterez très vite que, en les regroupant par catégorie, vous trouverez les suivantes. Alors, classiste, hein, avec pauvre et sale.
Grossophobe, bon, juste gros déjà.
Spéciste, alors qu'on préfère pourtant être baleine ou morue que Trump, hein, merci.
Raciste, évidemment.
Homophobe.
Transphobe.
Aphrodiste,
c'est-à-dire ce qui touche au culte de la beauté et stigmatisation de la laideur.
Et bien sûr misogyne, jusqu'au con qui désigne normalement les parties génitales féminines. Nombreuses sont les insultes qui laissent à penser à tout le monde que c'est mal, injurieux, vexant d'être une femme ou une partie de femme.
Alors on a par exemple femmelette,
pétasse,
radasse,
salope,
nympho évidemment. Personne ne vous traitera jamais d'homme blanc cis hétéro valide et riche. Mais pourquoi donc ?
Parce que c'est trop la classe d'être Jeff Bezos, ma gueule.
N'en déplaise aux puristes, la langue française demeure beaucoup trop machiste. Rien n'a changé. Un gars c'est un jeune mec et une garce.
C'est une pute.
Un coureur c'est un jogger et une coureuse.
C'est une pute.
Un chauffeur il conduit le bus et une chauffeuse.
C'est une pute.
Un entraîneur c'est un coach sportif et une entraîneuse.
Bah c'est une pute.
Un homme à femme c'est un séducteur, une femme à homme.
C'est une pute.
Un chien, un animal à quatre pattes, une chienne.
C'est une pute.
Un cochon c'est un mec sale, une cochonne.
C'est une pute.
Dans ce domaine de la silenciation des femmes, on notera une super règle de grammaire. Le masculin l'emporte. Dans un stade d'un million de meufs, s'il y a un seul mec, on dira « ils sont dans le stade ». Ai-je quelque chose à rajouter à la violence de cette règle qu'on apprend dès tout petit et dès toute petite ? Et à quel point les symptomatiques de l'effacement des femmes dans tous nos outils de pensée, de dire, de réfléchir ? C'est pour ça aujourd'hui qu'on réclame une autre langue, plus inclusive. Bien sûr, c'est pas évident. Ça peut même être vu comme un ajout de difficulté à une langue déjà bien pourrie niveau grammaire. Mais au bout du compte, ça permet de faire entendre la présence d'une portion non négligeable de la personne à côté de toi. Celle que tu n'entends pas, que tu ne vois pas. C'est pas un peu important, ça aussi ?
Tu vas me faire chialer, mon chat. On terminera ce petit point langue, culture et patrimoine par l'effacement des figures publiques, notamment dans le domaine des innovations scientifiques et technologiques. Donc les innovatrices, elles n'ont même pas le droit à leur plaque sur les immeubles puisque les femmes représentent moins de 5% des rues en France, à savoir le même pourcentage que le nom de rue rendant hommage à la colonisation, mais rien qu'à Paris, sans compter le reste du pays. En 2022, il est donc à peine mieux vu d'être une femme qu'un crevard colonisateur et belliqueux, mais porteur de bourse.
Un avantage sans égal.
On a longtemps dit que derrière tout grand homme se tenait une femme qui la ferme et qui fait tout le sale travail. Ben c'est pas une image chou les enfants, hein, c'est de la merde, et on dit non.
Mareuil, ça te dirait qu'on aborde quelques exemples de femmes spoliées de leurs inventions ?
Oui !
Bon bah tu vas être déçu parce qu'on fera pas ça aujourd'hui.
Nyon !
Et oui, comme à chaque fois qu'on commence à remuer la vase, on en ramasse des tombereaux. Et il y en a tellement qu'on sera obligé de faire un épisode spécial « Femmes et innovation » pour parler de ce sujet en profondeur. Mais là aussi, on notera que c'est une technique de silenciation suprême que de dire que ce que t'as inventé, ça passera mieux avec un blast de bonhomme en copyright. Déjà qu'on doit porter leur nom et abandonner le nôtre si on se marie avec, autant leur filer le reste, hein.
Les conséquences de tout ça sont très simples. Apprendre aux filles qu'elles ne comptent pas, même pas quand elles sont majoritaires, à décliner un adjectif qualificatif.
Elles ne comptent pas quand elles ont inventé quelque chose d'essentiel pour la nation.
Elles ne comptent pas quand il faut faire passer des lois pour le vivre ensemble, pour la constitution des gouvernements.
Elles ne comptent pas pour contribuer à des métiers qui sont à la portée du premier Kevin venu.
Elles comptent quand il s'agit de les faire passer pour bavardes, menteuses, potineuses, commères, assommantes.
Elles comptent si vous cherchez à insulter quelqu'un, à le vexer, à le stigmatiser.
Les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux.
Et aujourd'hui, dans le mot du jour, on va autopsier un mot qui vous manipule plus que vous ne le...
Excuse meuf, je te coupe, mais t'as pas compris, en fait, c'est pas ça, blablabla.
What the fuck ? Serais-tu en train de me mansplainer ? Et Jean Sismon, sors du corps de ma pote tout de suite !
Ça tombe bien, c'est LE mot du jour, ou les mots du jour. Manterrupting, mansplaining, mansplainer, mansplainer, et son équivalent franchois, m'expliquer, ou pénispliquer, au Québec, mais on la trouve essentialiste, donc on s'attardera pas dessus.
Non mais sérieusement, c'est quoi cette transition, s'il te plaît ? Mais je m'en vais t'expliquer ce que c'est une vraie transition, bébé. Pardon, j'ai eu des rôles, hein. Je crois que je digère mal le patriarcat.
Sinon, on fait comme PPDA, le paria de la société française, un petit sans transition, bonsoir.
Ah ouais, pas mal. Alors, sans transition, voici quelques mots utilisés dans le vocabulaire militant pour pouvoir justement penser les manières de faire taire les bonnes femmes.
J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs, alors apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire.
Quoi ?
Chez toi, y a pas le dictionnaire.
Allez, apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à te taire.
Un auditeur déçu peut vite faire un tortionnaire.
Alors apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à te taire.
Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère.
Alors apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à te taire.
Le mansplaining, c'est quand un cis mec vous explique la vie, en particulier dans un domaine qui le concerne pas un brin et sur lequel il n'a aucune compétence, aucune légitimité à parler et aucun vécu de préférence. Alors sur la twittosphère, on a par exemple vu certains expliquer leurs propres thèses scientifiques à leurs autrices. Eh oui.
The audacity. S'y ajoute le man-interrupting, cette fâcheuse tendance des mecs à vous couper la parole parce qu'on les a conditionnés à penser qu'un vrai bonhomme, ça parle fort, ça siffle sous la douche, à la piscine, ça chante dans le métro, ça hurle ses remarques, ça rit à gorge déployée et ça éternue comme un volcan.
À force de nous dire qu'on n'est qu'une bande de bavards décervelés, que le masculin l'emporte, que les professions reconnues sont réservées aux mecs, que la politique est une affaire d'hommes, et qu'être nous c'est insultant, on est habitué à penser qu'on peut s'asseoir sur nos temps de prise de parole. De fait, les études montrent que les hommes pensent souvent que les femmes parlent bien plus qu'elles ne le font en réalité, et vice-versa.
En effet, Mareuil, une étude des années 80 a analysé la perception des hommes face à la prise de parole féminine lors de réunions mixtes. Selon les résultats, ils considèrent parler autant que les femmes lorsqu'elles occupent autour de 15% du temps de parole, et lorsque celui-ci atteint 30%, ils ont l'impression que c'est elles qui mènent le débat. On parie quoi que c'est les mêmes qui viennent chouiner de ne pas pouvoir participer quand on organise des réunions en non-mixité choisie ?
Oula, je préfère pas parier, je suis quasiment sûre de perdre. Avant de s'interrompre...
Jolie !
Merci ! Et pour les plus ferventes défenseureuses de la langue franchoise, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser l'AVF avec les termes m'expliquer, hein, M-E-C-S-P-L-I-Q-U-E-R, et m'ecterruper, 12 lettres, M-E-C-T-E-R-R-U-P-T-E-R.
Pas mieux, le compte est bon. Et si vous voulez aller plus loin dans la thématique, on vous recommande de lire « Ces hommes qui m'expliquent la vie » de Rebecca Solnit.
Action !
Dans une goutte d'eau dans l'océan sur Prune, on sort les lingettes démaquillantes en bambou pour se laver les yeux et redécouvrir avec des pupilles neuves la misogynie plus ou moins cachée de nos objets culturels préférés.
Alors, pour ouvrir le bal, je rappelle l'existence d'un test essentiel, celui de Bechdel, ainsi nommé en hommage à la dessinatrice Alison Bechdel, qui propose, dans une de ses BD, trois règles pour mesurer le degré de représentation, ou non, des femmes dans les films. Numéro 1. Il doit y avoir dans l'œuvre au moins deux femmes nommées, et pas juste le prénom, attention, le nom de famille aussi.
Numéro 2. Elles doivent parler ensemble, de préférence sans se crêper le chignonus.
Dur. Et numéro 3. Elles doivent parler de quelque chose sans rapport avec un homme, qu'il s'agisse d'ailleurs de potiner et parler d'amour, ou même d'évoquer les multiples formes de violence masculine qu'elles subissent.
Difficile.
What are we talking about? Charlotte's boyfriend's balls? Seriously?
They're too long.
She's just guessing. Okay, that's it. I'm out of here. All we talk about anymore is big or balls or small dicks. How
how does it happen that four such smart women have nothing to talk about but boyfriends? It's like seventh grade with bank accounts. What about us? What we think, we feel, we know, Christ. Does it always have to be about them? Just, you know, give me a call when you're ready to talk about something besides men for a change.
On voit direct que ça va forcément exclure une forte proportion de nos productions visuelles, séries, films, etc. Alors faites le test à la maison, on peut d'emblée oublier les films à casting quasi exclusivement masculins, les films de genre type science-fiction Marvel, flics dans une relation homo-érotique avec leur partenaire, flics dans une relation homo-érotique avec le serial killer qu'ils poursuivent, super-héros dans une relation homo-érotique avec leur partenaire ou le méchant qu'ils combattent, ou vampires censés convoiter des jeunes filles fraîches mais préférant prendre en otage des mecs pour leur parler pendant des heures.
Pour des films de bonhommes, tout ça me semble quand même bien homo-érotique, dis donc. On peut rajouter les biopics sur des inventeurs qui n'ont en fait rien inventé, mais tout piqué à une meuf. L'excuse utilisée pour continuer à produire de nos jours des films et séries qui ne résistent pas aux tests de Bechdel, c'est par exemple de les implanter à une autre époque, genre les 70s, pour Mindhunter ou Aquarius par exemple, où les rares personnages féminins ne parlent jamais à une autre meuf. Bah oui, mais en fait, même dans les 70s, même à la préhistoire en fait, les femmes se parlent entre elles, elles sont plus de deux, et elles ne parlent pas que des hommes. Surprise, surprise! C'est juste qu'on les a jamais représentées autrement.
Des femmes dans les années 70, c'est étrange. Pour faire un focus plus spécifique aujourd'hui, parce que sinon on y passerait des heures sur les castings excluants, on va se concentrer sur le grand genre de couille qu'est le western.
Piou-piou!
Piou-piou-piou-piou-piou! L'occasion fait le charbon, un récent scandale de remise de prix fit grosse baffe entre six mecs nous permet de rebondir et de rappeler ici l'histoire de Sachin Littlefeather, envoyé en 1973 par Marlon Brando, qui devait recevoir un Oscar pour Le Parrain et préfère le refuser dans un souci de protestation et de visibilisation de la cause des Native Americans, qu'on appelle aussi Amérindiens. Alors cette démarche et la venue de Sachin Littlefeather provoquent la colère des deux grands noms du western, John Wayne qui menace carrément de l'attendre pour l'agresser physiquement à la sortie, classe, et Clint Eastwood qui se moque d'elle tout à fait ouvertement.
Ça m'étonne pas en fait pour un gros facho de droite. Enfin, malheureusement ce geste marquant provoque la fin de sa carrière. Pas Clint Eastwood hein. On est d'accord, à la gonzesse.
On est d'accord.
On notera qu'une accusation de viol ou une démonstration de racisme n'auront pas les mêmes effets pour des artistes cis-hêtres blancs sans message politique. On notera aussi que des acteurs qui se sont construits sur le massacre des Native Americans, complètement caricaturés, vivent très mal qu'on ose toucher à leur fonds de commerce intersectionnel entre racisme colonialiste et misogynie assumée. Wayne comme Eastwood sont des piliers de la construction de la virilité toxique. Quand on vous dit que l'intersectionnalité, c'est important.
My name is Sachin Littlefeather. I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening and he has asked me to tell you in a very long speech which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. Excuse me. And on television, in movie reruns, and also with recent happenings at Wounded Knee. I beg at this time that I have not intruded upon this evening and that we will, in the future, our hearts and our understandings will meet with love and generosity. Thank you on behalf of Marlon Brando.
Le western se base sur ce qu'on appelle la pastorale américaine. Y a un mec, bon, on s'en fout en fait de qui c'est, mais voilà, qui s'appelle Adam Mars Jones. Il définit la pastorale américaine en ces termes: a wilderness and no women. Merci pour mon accent. Une étendue sauvage et pas de femmes.
C'est pas la même chose.
C'est plaisant. L'idée est de représenter un homme, évidemment blanc, de préférence seul, qui affronte à la fois les Native Americans et une nature hostile à la manière des pionniers américains qui se voyaient comme des gros héros découvrant un continent déjà découvert et déjà exploité par les Native Americans.
Étonnant, je l'avais pas vu venir celle-là.
Je sais.
Le western est le grand genre de silenciation. Silenciation des hommes aussi, représentés comme taciturnes, mâchonnant un brin d'herbe et s'exprimant par leur colt fumant. Piou piou. Silenciation de la terre, réduite à des déserts dangereux qu'il s'agit de dominer. Silenciation de populations chassées de chez elles, spoliées, moquées. Silenciation enfin des femmes, que l'on ne voit que pour des scènes pseudo-érotiques, coincées dans des maisons à attendre un époux qui ne reviendra pas, parce qu'être à cheval dans des vêtements puants et tirer sur d'autres mecs dans des rues en terre battue, c'est quand même le pied.
Et n'oublions surtout pas les bagarres au saloon. Dans le western, les femmes sont soit des prostituées, soit des femmes bien, ça veut dire qu'elles sont veuves. Et il faut les sauver, parce que sinon les méchants indiens ou les méchants cow-boys qui convoitent leurs terres viendront les tuer ou les scalper. Évidemment, elles n'ont que très peu de répliques, hein, si on accepte les soupirs de plaisir qu'elles poussent en recevant dans leurs bras des types qui ne se sont pas lavés depuis 6 mois, à une époque où la brosse à dents n'existe pas.
Non mais je vais faire des bruits de vomi, donc ça va pas le faire. La brosse à dents n'existe pas. La brosse à dents, je ne veux pas. Je ne veux pas imaginer cette. C'est au-delà de mes forces. La suite, vite.
Bon, encore. Ok, tout va bien, Charlotte. Et encore, ça, c'est quand il y a une femme dans le lot. La plupart du temps, il y en a pas. C'est plus simple. Ça évite de les insulter, d'ailleurs. Le résultat, c'est évidemment de nous donner l'impression que les femmes n'ont joué strictement aucun rôle dans la fondation des États-Unis.
Tout ça n'est bien sûr qu'une goutte d'eau dans un océan de silenciation. Les exemples ne manquent pas, mais il y en a ras la moule de pas avoir assez de meufs en chapeau de cowgirl, quoi. On veut du lesbo-érotisme, nous. Dans la boîte à outils militante, on donne la parole à des gens qui luttent autour de nous pour faire entendre notre colère, nos mots et notre voix. Aujourd'hui, on a le plaisir d'échanger avec Lou, qui va nous présenter les actions du collectif des Colux de Nantes. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le collectif ? On a remarqué qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même et que du coup, il valait mieux laisser les invités présenter leur collectif.
En fait, les Colux, donc c'est un collectif. C'est les Colux de Nantes, donc c'est un collectif nantais, mais qui a repris ce qui était à la base les collèges féministes de Paris. Mais nous, on est vraiment plus axé sur quelque chose qui se veut le plus inclusif possible. C'est pour ça qu'on s'appelle les Colux et pas les Coleuses. Donc c'est un collectif, nous on appelle ça la mixité choisie, mais sans mixiste du coup, où on accueille vraiment tous ceux qui ont envie de coller ou de faire un bout de chemin militant avec nous. Nos actions principales, ça va être de coller, mais c'est pas du tout une obligation au sein du collectif, on n'en fait pas vraiment tout le temps. On en fait, mais genre on se force pas justement. Coller tout le temps.
Ok, et du coup, vous militez de quelle manière ?
Ben, du coup, il y a les collages et les manifestations auxquelles on essaie de prendre part. Sinon, c'est beaucoup d'échanges entre nous pour s'apprendre des choses mutuellement, essayer de se déconstruire sur plein de sujets différents. Ou sinon, s'il y en a qui s'y connaissent plus en anti-répression, On va chacun, chacune échanger sur ces thèmes-là et essayer de grandir ensemble dans notre militantisme, en fait.
Merci pour cette présentation, du coup. Moi, je pense que c'est intéressant de savoir que si on n'est pas à l'aise forcément avec le collage, on peut rejoindre l'association, qu'on y trouvera d'autres manières de militer.
Oui.
On l'a mentionné tout au long de l'émission, il y a encore aujourd'hui mille et une manières de silencier la parole des femmes et des minorités de genre. Comment les collages arrivent-ils à permettre de se réapproprier l'espace public ?
Justement, se réapproprier l'espace public, c'est, je pense, la ligne directrice, le but un peu des collages. C'est vraiment genre prendre de la place dans la rue avec des slogans ou juste le fait de voir des collages, tu te dis « Ah ok, il y a des personnes qui ont collé, ça prend de la place. » Enfin, genre, concrètement, physiquement, c'est là, quoi. Et ça fait toujours un petit rappel de « Eh oh, on existe et on a ça à dire. » Et même moi, avant d'être dans le collectif, si je prends le tram ou que je marche dans la rue et que je vois un collage, je le lis. Limite, notre cerveau le lit sans même qu'on en ait envie. Et du coup, c'est vraiment un rappel que on est là, on existe, on a des choses à dire. Et les personnes qui vont pas forcément être sensibles au slogan ou sensibles au militantisme de manière générale ou quoi, ils vont voir les collages et même si ils en pensent rien, on se dit que ça peut forcément faire germer quelque chose dans l'esprit des gens. Vraiment, ça interpelle.
Alors du coup, t'évoquais les slogans justement que vous collez, donc le choix des mots, leur existence même est importante. Donc vous, par quelle manière, au sein du collectif, vous allez choisir les phrases, les slogans à afficher sur les murs ?
Alors déjà, on fait toujours en sorte que les slogans soient en écriture inclusive. Et aussi, notre but, c'est que ce soit compris par le plus de gens possible. Donc, on va essayer de prendre des mots que tout le monde peut comprendre. On sait qu'on milite plus ou moins pour les mêmes choses. Donc, il n'y a pas vraiment non plus de référendum pour choisir « Ah, on va coller ça aujourd'hui » ou quoi. On a des idées de slogans et juste parfois on les partage entre nous et on peut se demander « Ah, mais est-ce que tu penses que le slogan il est bien ou il est pas bien ?» Ou on va faire des petites modifications ensemble. Et ça qui est bien en tant que groupe, c'est qu'on a plein de points de vue différents. Et du coup, c'est cool pour créer des slogans qui peuvent aller, convenir à tout le monde. On peut aller participer à un collage et genre savoir un peu au dernier moment ce qu'on va coller. Genre on va pas se restreindre, mais on essaie d'inciter personne à quoi que ce soit à travers les collages, donc pas inciter forcément à la violence ou à adhérer à un parti par exemple.
Ouais, en fait c'est politisé dans le sens où c'est militant, mais ça suit pas un parti en particulier.
Ouais, pas du tout. On se positionne vraiment en tant qu'apartisan, apartisane. Et donc on va pas soutenir tel ou tel parti parce que c'est pas le but. On milite pour certaines causes comme féminisme, enfin plutôt anti-sexisme, anti-validisme, anti-racisme, anti-transphobie.
Tu me disais tout à l'heure que c'était un collectif plutôt horizontal, donc j'imagine que ça va aussi avec cette idée de tout le monde participe, tout le monde apporte son idée.
Ouais, exactement. On encourage vraiment ça dans le collectif. Enfin, par exemple, moi je suis dans le collectif depuis pas très très longtemps. Mais par exemple, je trouvais ça cool que pour l'interview, on nous dise vraiment « c'est pas grave si vous êtes nouvelo dans le collectif, c'est pas forcément toujours les personnes qui sont plus anciennes qui vont être porte-parole ou faire des trucs. » On s'encourage tous à prendre la place qu'on a envie de prendre et vraiment pas hésiter à proposer des choses. Et ça fait vraiment du bien d'être dans un collectif qui fonctionne comme ça, parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas trop comme ça.
Est-ce que votre initiative a permis d'ouvrir un dialogue, que ce soit avec les personnes directement concernées par les messages véhiculés, ou alors à l'échelle des institutions au sein de la commune ?
Je sais que, par exemple, on a un compte Instagram, mm-hmm. Et qu'on est pas mal suivis, et enfin, même les gens qui font partie du collectif, ou même qui ne nous connaissent pas, mais qui savent qu'on existe par... soit les collages qu'elles voient dans la rue, soit par le compte Instagram. Ça apporte un soutien, même qui n'est pas forcément palpable ou visible, dans le sens où ce n'est pas des personnes qu'on connaît. Après, il y a aussi, par exemple, des gens qui décollent ce qu'on colle, et parfois assez rapidement d'ailleurs. Donc forcément, on sait que ça plaît pas à tout le monde.
Ouais, c'est une manière silencieuse de s'opposer à ce que vous dites, en fait, quelque part.
Oui, c'est ça. Et ouais, à part ça, je sais qu'on échange beaucoup avec d'autres collectifs militants, mais sinon, pas forcément avec des autorités, entre guillemets, de la communauté.
Non, je posais la question aussi parce que ça fait partie des propositions de Johanna Roland dans son programme électoral de faire de Nantes une ville plutôt féministe. Donc voilà, je me posais la question de savoir si, par hasard, il y avait eu un dialogue à ce niveau-là.
Non, je pense pas du tout.
Eh bien, Madame Johanna Roland, si vous écoutez l'émission, il est temps. Tu mentionnais l'Instagram, du coup, est-ce que tu peux nous rappeler le nom exact pour les personnes qui voudraient aller voir ou vous contacter ?
Du coup, le nouveau compte, c'est Colux, donc COLUXSES _ nantaise, donc NANTAIS.ES.
Super, bah de toute façon, on mettra le lien directement dans la description de l'émission sur le podcast. Merci beaucoup Lou pour cette interview.
Bah, de rien, avec plaisir.
Et puis peut-être à bientôt, moi ça m'a bien motivée en tout cas.
Super.
Quand ça va pas, quand ça va trop loin, on se lève, on se casse.
Et pour ajouter des nuances de pensée et des briques solides à votre armure anti-mascu, oui, parce qu'elle est en briques, voici quelques suggestions de reconstruction mentale aussi douces et bienfaisantes qu'une pintasse de blanche fit tranche de citron.
Pour commencer avec tapage, j'avais envie de vous présenter Vox, le roman dystopique de Christina Dalcher, déjà parce que l'autrice est docteur en linguistique de la prestigieuse université de Georgetown, et puis surtout parce que, dans le monde qu'elle dépeint, les femmes sont limitées à 100 mots par jour, point. Rien qu'avec cette phrase, j'aurais déjà atteint la moitié du quota, c'est dire. Et oui, une personne prononce en moyenne entre 16 000 et 20 000 mots par jour. Mais du coup, quelles conséquences cette réduction aurait-elle pour les femmes dans ce monde totalitaire ? Eh bien, c'est assez pernicieux, en fait. D'abord, la perte de leurs comptes en banque et documents d'identité, puis la perte de leurs emplois, et enfin, celle de leur éducation. Puisque à quoi bon leur enseigner à lire et écrire, puisqu'elles ne peuvent même pas se servir des mots ? Dalcher cherche en effet à montrer l'importance de la parole, notamment par le biais de mouvements libérateurs comme MeToo, mais aussi du langage de manière générale. Publié en 2018, le livre a été décrit comme un digne successeur de La Servante écarlate et de 1984. Bon, pour moi, il est loin d'être aussi novateur et abouti, mais le sujet reste intéressant et il a le mérite de provoquer la réflexion. En somme, c'est un bon divertissement sur fond de totalitarisme, juste ce qu'il nous fallait dans l'époque actuelle.
C'est clair. Alors pour ma part, je vais évoquer Foyer de Yann Sirota. Alors d'abord un petit mot sur l'auteur. Yann, I-A-N-E, est écrivain et artiste. Il a créé un magazine radiophonique expositive qui propose des entretiens avec des plasticiens et plasticiennes, surtout, avant tout, sur des radios communautaires et bénévoles. Donc nous, on aime bien.
On aime.
Yann travaille actuellement en fait à repenser les manières d'accueillir les militants et militantes féministes et de leur offrir un espace de repos et de créativité dans une espèce d'utopie qu'il est en train de retaper avec sa meuf, donc classique. Alors autour du foyer comme lieu de réunion des rayonnements, il publie un roman en 2017 qui croise écoféminisme d'un côté et réflexion sur une langue plus queer, plus inclusive, qui serait à même de visibiliser des catégories silenciées en France. Alors on suit les tensions entre différentes figures d'une communauté féministe isolée en Haute-Savoie au moment où elles sont forcées de partir à la rencontre d'autres groupes, de leur mode de vie, de leur langage et de leur manière de lutter. Alors c'est en maintenant l'idée de toujours confronter les points de vue, de maintenir un dialogue permanent, d'une remise en question qui doit être nécessaire et qui doit être constante pour éviter l'embrigadement, que l'auteur nous amène à nous interroger sur la manière de construire une utopie qui serait plurielle, qui respecterait les différentes individualités et qui respecterait l'environnement. Le roman est assez en avance par sa manière d'écrire, au point d'avoir d'ailleurs récemment intéressé Harvard, ce qui n'est pas rien.
T'es où consigne ? J'arrive.
Fière, vénère, pas prête de se taire, révolutionnaire, radical et en colère. Fière, vénère, pas prête de se taire, patriarcat, tu vas prendre cher. Fière, vénère, pas prête de se taire, révolutionnaire, radical et en colère. Fière, vénère, pas prête de se taire, patriarcat, tu vas prendre cher.
Alors on avait évoqué Culotté le mois dernier, et dans la même veine, je voulais proposer aujourd'hui Désobéissante, c'est un ouvrage de 2020, écrit et illustré par le collectif féministe roumain composé d'Adina Rossetti, Victoria Patrașu, Iulia Iordan, Laura Grunberg et Cristina Andone. Inspiré de faits et de personnages réels,
L'ouvrage dresse le portrait de 100 femmes d'Europe de l'Est qui ont brillé par leur détermination, leur indépendance et leur force de caractère, en nous rappelant qu'il est bon de ne pas toujours demander la permission de se faire une place. Présenté comme une sorte de collage d'images et de voix avec des tons parfois très différents, un humour souvent satirique, ce très beau livre laisse également place au débat pour discuter de la pertinence d'une figure controversée et de sa légitimité à y paraître. Autre point remarquable, souvent oublié, les femmes au foyer font ici l'objet d'une double page. Alors, il n'est pas toujours accessible au premier abord, donc on vous conseille de le garder sur votre table de chevet et d'en lire une histoire tous les soirs, comme les enfants, pour donner à vos rêves des airs de voyage aux notes d'empouvoirment.
Oh oui, une super marchande de sable. Et puis, toujours en BD, on retrouve pour notre plus grand plaisir l'incontournable Liv Strömquist, dont toute l'œuvre peut en fait aisément vous servir de manuel de déconstruction à l'usage de bah, tout le monde. Et puis aussi vous remonter le moral, si besoin. Et il y en a besoin. Alors dans cette BD, il est question cette fois des fameuses, entre guillemets, femmes d'eux. Alors là aussi, hein, comme elle l'a dit, chat, tout à l'heure, c'est un terme sans équivalent masculin. On ne parle jamais de mari d'eux. Étrange. Alors en choisissant cette perspective, l'autrice propose en fait une critique toujours aussi acerbe de la société dominée par les valeurs viriles que sont la compétition, l'appropriation, la famille, en tout cas si t'as pas à t'en occuper. On rencontre Madame Stanley. On rencontre Madame Staline plutôt. Madame Elvis Presley, occasion de souligner.
Elle n'a pas de prénom.
Voilà.
Elle s'appelle juste Madame Presley.
Bah ça, c'est un autre mécanisme de silenciation des femmes, Charles, parce que en fait, si tu vas dans un cimetière où tu regardes le courrier de ta mamie, une fois mariée, les femmes, elles prennent le nom du mec, mais aussi leur prénom aux yeux de l'administration. Donc tu pourrais t'appeler Madame Jean-Eudes de Sismont de la Poire. Je suis sûre, c'est trop ton style. Voilà. Donc ça aussi, c'est de la silenciation. Bref, dans cette BD, on apprend plein de choses. Le choix de ce point de vue, en fait, c'est une manière de redécouvrir des grandes figure historique d'un autre angle et de tabasser avec beaucoup d'humour tous ces piédestals. Piédestaux.
On dit des chacos, non ?
Ok, tout juste bon, des piédestaux tout juste bon à écrabouiller la terre entière.
On va dire que c'est ça. Elle avait déjà beaucoup trop d'exemples de mari toxique à traiter dans sa BD, mais je suis sûre que si elle avait eu plus de place, elle aurait aussi parlé de Walter Keane. C'est qui Walter Keane, me diras-tu ? Eh bien, juste un gros trouduc qui a connu un succès phénoménal à la fin des années 50 grâce à ses tableaux représentant des enfants aux yeux immenses. La suite va te surprendre, ou pas. Ses toiles avaient en fait été peintes par sa femme Margaret.
Le salaud.
Enfin, vraiment, l'histoire est atroce. Le film Big Eyes de Tim Burton, sorti en 2014, retrace l'histoire vraie de cette supercherie monumentale. Christopher Waltz y est plus vrai que nature dans le rôle du pseudo-peintre, et Amy Adams, toujours aussi formidable, incarne celui de l'épouse manipulée, spoliée et silenciée, enfermée 16 heures par jour et forcée à peindre pour garantir la pérennité du succès commercial attribué à son mari.
Quelle horreur!
Bien qu'elle soit aujourd'hui considérée comme un précurseur du surréalisme pop et du lowbrow art né à Los Angeles à la fin des années 70, Margaret Keane ne s'est vue reconnaître la maternité de ses œuvres qu'en 1986, soit après plus de 30 ans à batailler avec son ex. Ça fait froid dans le dos.
Je vous bonjour, domine homie. That's Russian, motherfucker.
Go home and clean the kitchen.
Oh, sir, I'm Jewish. I pay people to do that.
I would like to repeatedly kick every man in here in the balls over the course of the next several hours. I won't. Though, I am still a lady.
Women aren't funny.
Your wife must have a sense of humor. She's seen you naked.
I'm sorry, I thought we were truth-telling.
Lady never kicks men repeatedly in the balls for longer than 20, 30 minutes tops, because then their girdles start to draw blood.
I just want you to know how much I admire you guys. I could never be brave enough to wear the same outfit every day.
En série, on va recommander aujourd'hui The Marvelous Mrs. Maisel, une série d'Amy Sherman-Palladino sortie en 2017. C'est une série qui se passe dans les années 60. On suit Myriam Maisel qui est au début de son mariage. Donc elle s'installe dans sa petite vie de femme mariée, super rangée, entièrement rythmée par les contraintes domestiques et son amour pour son mari.
Et les fringues.
Et les fringues. Et sa routine beauté hyper flippante où elle se relève en plein milieu de la nuit pour aller mettre de la crème. Et elle a tout un subterfuge pour cacher à quoi elle ressemble démaquillée à son mari de merde.
Mais tu fais pas ça toi? Moi je fais ça toutes les nuits.
Je le fais pour mon chat. Donc quand ce mari pourri la trompe, elle se lance un petit peu par accident dans une carrière d'humoriste qui consiste principalement à ce qu'elle dise tout ce qu'elle pense à voix haute avec son humour bien à elle. Alors voilà, en fait, comment on peut repartir dans le temps et pour mettre en évidence qui avait été silencié. Et oui, les meufs avaient déjà des trucs à dire à l'époque, n'en déplaise à la censure mascu. Donc cette série, elle est drôle, elle est cathartique. On y go!
Le privilège de l'innocence de sa couleur de peau, c'est un peu... J'aimerais bien, on aimerait tous l'avoir, mais bon.
Si t'es noir, tu dois en faire deux fois plus.
Je voulais avoir les cheveux qui volaient au vent.
Un film avec que des noirs, c'est du communautarisme. Alors qu'un film avec que des blancs, bah, c'est un film.
Mais vous venez d'où ? Être solide et être debout, ça veut pas dire être insensible et être déshumanisé.
On est arrivé à un stade où là, effectivement, il est temps peut-être qu'on prenne la parole et qu'on parle pas à notre place, en fait, finalement.
Et pour terminer rapidement, il aurait été dommage de ne pas citer le superbe docu d'Amandine Gay dont le titre parle de lui-même, Ouvrir la voie, Speak Up, Make Your Way, qui est lui aussi sorti en 2017, donc une année décidément fertile. Elle y offre une tribune à des femmes noires qui évoquent leur identité, mais aussi le lourd héritage du colonialisme en Afrique et aux Antilles, et la manière dont ça les affecte. Donc ça interroge le fait d'être une femme, d'être noire, d'être une femme noire, et surtout ça montre que les voix, c'est pluriel et c'est multiple.
On s'arrête là pour aujourd'hui, malheureusement, Mareuil. Parler beaucoup pour dire encore plus, parler enfin pour dire le silence, ça fait du bien par où ça passe. Et même si donner sa voix risque d'être difficile dans les temps à venir, donner de la voix peut prendre bien des formes pour peu qu'on les connaisse et qu'on ait envie de s'en saisir. On compte sur vous pour continuer l'opération Mégaphone et sur nous pour continuer à décliner les multiples biais de silenciation des femmes à travers les siècles. N'hésitez pas à partager vos propres suggestions, coups de cœur, coups de gueule et idées. On vous attend sur Insta pour retrouver les références de l'émission, mais aussi pour l'appel à témoins du mois prochain où nous parlerons de l'été, saison tout aussi attendue que redoutée.
Si vous redoutez le temps des bikinis, de l'apparition des couvertures de magazines sur régime et poil, si vous non plus vous ne comprenez pas pourquoi on vous demande de vous mettre à poil sur la plage et de vous couvrir sur le parking de la plage, envoyez vos témoignages.
En attendant, des bisous consentis et à bientôt! Pour rester sur des charbons ardents, retrouvez le podcast de l'émission sur www.prune.net.